présente chaque mardi, souvenez-vous. Eh bien oui, c'est quand il est à 17h, on est à 23h. Vous retrouverez cette émission également à 5h le matin ou bien à 11h. Kaléidoscope consacré cette semaine au festival Ex-Avoria, c'est-à-dire Gérard Meck.
Remue Ménage, c'est Ondes Femmes sur Radio Zone 93,8 tous les mercredis en direct de 17h à 18h30. L'émission est rediffusée le jeudi à 10h et 15h. Remue Ménage sur Radio Zone 93,8. Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans Ondes Femmes, Radio Zone 93.8. Ondes Femmes, je vous le rappelle, c'est un programme consacré aux femmes, donner la parole aux femmes, parler des femmes, réalisé par des femmes, Catherine est au micro. Et c'est tous les mercredis de 17h à 22h en direct dans nos studios. Vous pouvez le réentendre si vous l'avez raté, peut-être le retrouverez-vous, soit le mercredi soir à 23h, soit le jeudi matin à 11h. Voilà, ceci c'est les horaires de rediffusion, en particulier de Remue Ménage, 17h-18h30 en direct. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vous propose? Eh bien, nous avons pris l'habitude depuis 3 mois, je dirais avec la pause des vacances, d'instaurer une fois par mois une émission sur le thème « La religion par les femmes ». Ceci après avoir eu dans nos mains un livre fort intéressant écrit par Nancy Auerfolk et Rita M. Gross, deux femmes américaines qui ont publié un livre qui a justement pour titre « La religion par les femmes » chez Labor et Fides. Dans ce livre, elles nous font découvrir justement le rapport entre la spiritualité un peu partout dans le monde, le rôle que peuvent jouer les femmes dans les religions. Un peu partout dans le monde. Nous avons déjà eu 2 émissions jusque-là sur ce thème, avec chaque fois le portrait d'une femme qui joue un rôle important dans une religion. Nous avons découvert il y a 1 mois Jnananda, qui est une femme gourou en Inde. Et puis, un mois avant, enfin, c'est-à-dire en décembre plus précisément, eh bien, nous avions rencontré une femme qui joue un rôle particulier en Afrique. Cette semaine, eh bien, qu'est-ce que je vous propose, ce mois plus précisément, eh bien, de découvrir une femme, tout simplement, qui a joué un rôle important dans la religion catholique, et une femme qui joue un rôle important, non pas tant dans sa religion comme dans la hiérarchie, mais par son action, et c'est une femme dans la religion orthodoxe. Alors, l'une de ces deux femmes, son portrait est tiré du livre de Nancy Auerfolk et Rita McGross, « La religion par les femmes ». Cette femme, c'est Dorothy Day, qui s'est vue appelée mère universelle catholique. Et c'est un portrait qui sera réalisé par Deborah Campbell, que je vous ferai partager. Et puis l'autre portrait, c'est plutôt un entretien réalisé récemment, que j'ai trouvé dans le journal Femmes Suisses, celui qui vient de paraître ce mois, et qui donne la parole à Mère Sophia. Mère Sophia, qui est une femme qui travaille à Lausanne et qui est licenciée en psychologie et en théologie. Elle est orthodoxe et elle parle de la place des femmes dans la religion et par rapport au rôle qu'elle joue, elle aussi, dans son travail et sa fonction religieuse. Voilà, alors c'est le programme pour aujourd'hui dans Remue Ménage. C'est dans quelques instants, pour l'instant, une page de musique qui n'a rien à voir avec la religion, puisque c'est Jnananini.
Segue il sogno in quella mano. piega dei miei jeans. A quale sguardo hai detto sì? Nella tua bocca in un angolo è là che mi spoglierò. Mi addormento un po' in questa notte feroce. Vieni, spegni la luce. Voglio fare
Voilà, c'est Gianna Nannini, je veux faire l'amour. Alors aujourd'hui, je vous le disais, une troisième émission sur le thème « La religion par les femmes ». Et pour commencer tout de suite, un témoignage, une interview, celle de Mère Sophia. Mère Sophia, eh bien, c'est une femme qui ne mâche pas ses mots pour dénoncer l'exclusion dont sont victimes les femmes au sein des églises. Alors, les deux autres témoignages, les deux autres portraits que je vous avais lus dans les autres émissions sur le thème « La religion par les femmes » nous portaient dans une religion que nous connaissons peu, c'est les religions en Inde, c'est la religion en Afrique. Je suppose qu'ici, vous aurez bien plus de références. Ce n'est pas que dans Remue-Ménage, nous ayons fait un choix particulier pour la religion, mais je crois que c'est une discussion intéressante dans la mesure où elle soulève en ce moment beaucoup de controverses, que celle de voir quelle est la place que peuvent prendre certaines femmes lorsqu'elles ont la foi, qu'elles ont choisi de s'intégrer à une église. Preuve en est tout le débat autour des femmes qui, par exemple dans l'église anglicane, pourront enfin accéder à des responsabilités au sein de leur église. Et la réaction de la hiérarchie autour de cette décision, de la réaction de la hiérarchie catholique autour de cette décision et d'incroyable conversion de certains anglicans à la religion catholique papale, si l'on peut dire, depuis que leur hiérarchie a décidé de donner la place aux femmes dans leur hiérarchie. Alors, Mère Sophia, elle n'est pas une moniale, parce que tel est son titre, comme les autres. D'abord, elle est licenciée en psychologie et en théologie, ce qui est déjà particulier, et elle est orthodoxe, elle a 47 ans, et vous pourriez la rencontrer dans les rues de Lausanne, puisque depuis 8 ans, elle s'occupe des déshérités dans cette ville. Sa mission ? Eh bien, surtout les aider et les sauver, dit-elle. Elle porte une tunique bleue où trône une croix orthodoxe. Elle porte par-dessus cette tunique bleue un perfecto noir. Écoute de la musique religieuse grâce à un Walkman qui ne la quitte jamais et reçoit continuellement des appels sur un bip aircall. Donc pas du tout l'image habituelle que l'on se fait de la moniale. Dans la ville de Lausanne, eh bien, tout le monde connaît Mère Sophia. Entre autres, bien sûr, pour son engagement généreux qui ne faiblit pas, malgré, hélas, sa mauvaise santé. En 1991, elle ouvre une unité d'accueil pour des adolescents qui souhaitent se réinsérer dans la société et aussi pour les malades du sida. Mère Sophia doit tourner avec un budget de 30 000 francs par année qui lui est confié par le canton de Vaud. On s'en doute que c'est pas très facile et tout n'est pas rose dans la vie de cette moniale. Elle souffre notamment de ne pouvoir exercer sa vocation de diacre. Le diacre, c'est une fonction que l'Église orthodoxe lui interdit parce qu'elle est une femme. Alors Mère Sophia enrage de subir la loi de ce qu'elle appelle les barbus et elle crie haut et fort sa déception. Et elle l'a transmis, entre autres, au journal Femmes Suisses. Voilà un écho de l'interview qu'elle a donnée pour ce journal. Alors, première question qu'on lui pose, Mère Sophia, la place des femmes au sein de l'Église vous tient à cœur. Est-ce que parce que vous êtes féministe ? Mère Sophia de répondre, ça dépend ce que l'on entend par le terme féministe. S'il signifie se passer des hommes, non, je ne suis pas féministe. En revanche, je le suis s'il s'agit de faire avancer le statut et le rôle de la femme dans le monde. J'appartiens à l'Église orthodoxe, une Église très masculine et très patriarcale. Les femmes de cette Église doivent montrer aux hommes le bien fondé de ce qu'elles demandent. En aucun cas, elles ne doivent les exclure. Les hommes ont écarté les femmes de l'Église pendant des siècles. Aujourd'hui, les femmes ne doivent pas adopter ce comportement. Mais comment jugez-vous le rôle dévolu actuellement aux femmes dans les églises catholiques et orthodoxes ? Plutôt que de parler du rôle de la femme dans l'Église, il convient de souligner l'absence de son rôle. L'Église catholique est rusée, elle. Elle donne des sucres aux femmes en leur permettant de lire la Bible pendant l'office, par exemple. L'Église orthodoxe a le mérite de tenir un discours plus clair. Elle ne leur laisse rien faire. Mais les femmes sont en train de s'organiser au sein des églises. Celui que tout chrétien confesse, c'est le Christ. C'était l'homme qui a le plus aimé les femmes. Alors comment peut-on, 2000 ans après, évincer pareillement les femmes de l'église ? C'est une attitude tellement antichrist, antichristique. Au nom des apôtres, je me demande ce que les hommes d'église font de certains textes que j'appelle « squatter » de la Bible. Ce sont par exemple des textes de l'évangile de Marie que l'on se garde bien de remettre dans la Bible alors qu'elle devrait faire partie des canons de celle-ci. Dans la même logique, pourquoi avoir pris Matthieu et pas Thomas, l'évangile de Jean et pas celui de Pierre ? Thomas parle beaucoup du Sauveur et du rôle crucial de Marie-Madeleine. C'est important. Pour moi, Marie-Madeleine est une apôtre au même titre que Pierre, Jean, Jacques, etc. Par les choix des textes effectués, on voit bien qu'il s'agit d'une histoire d'homme. Or, il faut arrêter de faire de la Bible un bastion masculin. Hommes et femmes devraient revoir la Bible ensemble et faire en sorte qu'elle ne comporte pas de connotation masculine ni féminine, mais qu'elle retrouve une signification universelle. Les femmes demandent aujourd'hui qu'on réactualise la Bible. Les églises romaines et orthodoxes, en refusant l'apport des femmes, se sont amputées d'une richesse inestimable. À part l'exclusion des femmes, voyez-vous d'autres conséquences à une interprétation uniquement masculine de la Bible, Mère Sophia ? Oui, au VIe siècle après Jésus-Christ, Saint Jérôme a fait une interprétation terrible d'une phrase de la Bible sur laquelle toute l'Église romane d'aujourd'hui est bâtie. « Tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. » Mais le texte grec dit « Tu es un petit caillou, et sur ta foi, qui est semblable à un rocher, je bâtirai mon Église. » C'est sur la foi que le Christ a bâti son Église, et pas sur un homme, Pierre. Ainsi, Jérôme a établi un regard purement humain sur un acte de foi, un mystère divin. Mais de cette interprétation erronée sont sorties une succession d'hérésies, dont la papauté par exemple. Ainsi, lorsque l'on dit que le pape représente le vicaire du Christ sur terre, excusez-moi, mais ça frôle plus que l'hérésie. Quant à l'infaillibilité du pape, alors franchement, ça signifie qu'on conteste la toute-puissance de Dieu. Je conteste donc le principe de la papauté. Comment définir l'absence du rôle de la femme dans l'Église ? Elle se trouve au niveau sacerdotal. De nombreuses femmes ont la vocation sacerdotale. Servir à l'autel, servir le Christ. Ça n'a pas de sens de réserver le service aux seuls hommes parce que c'est une vocation. Vocation vient du verbe latin vocare et qui veut dire appeler. On n'a pas à discuter un appel. Si une femme est appelée au sacerdoce, je ne vois pas de quel droit les hommes se mettent en travers de cette vocation. Si l'on croit que la vocation est un appel de Dieu, on ne doit pas lui mettre un sexe. L'Église justifie son refus de laisser la femme exercer le sacerdoce sous prétexte que Jésus avait choisi uniquement des hommes pour apôtres. Qu'en pensez-vous, Mère Sophia ? Il faut considérer le contexte socioculturel de l'époque. Celles qui servaient étaient des femmes. Vous imaginez-vous une Eucharistie où le Christ dit à toutes les femmes de sortir ? Alors qu'en général, il les faisait rester. Lorsque certains prêtres orthodoxes prétendent exclure les femmes du fait qu'elles n'étaient pas présentes à la Sainte Cène, je leur réponds « D'abord, vous n'y étiez pas ». Ensuite, si vous êtes honnête intellectuellement, vous devez prendre en compte les aspects socioculturels de l'époque. En effet, puisque les femmes servaient, il est impensable qu'elles n'aient pas été présentes. Et si l'on prend en compte l'attitude du Christ envers les femmes, c'est impensable doublement. Le Christ était toujours entouré de femmes, même dans des lieux où celles-ci étaient généralement interdites d'accès. Si l'Église ne laisse pas la place à des vocations de femmes, elle est en voie de disparition au sens temporel du terme. Mais l'entrée des femmes dans l'Église pourrait apporter un renouveau. Je parle de femmes bien dans leur tête, qui ne reproduisent pas les stéréotypes des hommes. Vous-même, Mère Sophia, vous aspirez au sacerdoce. L'orthodoxie interdit ce ministère aux femmes. Comment vivez-vous cette situation au sein de votre Église, l'Église orthodoxe ? Je souffre beaucoup du fait que l'orthodoxie ne reconnaisse pas aux femmes le droit de jouer le même rôle que les hommes au sein de l'Église. Une richesse manque. À titre personnel, je fais avec, et ça ne joue pas un grand rôle dans mon ministère d'aumônière de rue. Mais dans l'Église même, ça joue un très grand rôle. On parle beaucoup des droits de l'homme, mais c'est invraisemblable que jamais on ne se soit préoccupé des droits de la femme dans sa propre Église. Dans la religion orthodoxe, la parole de la femme est totalement occultée. En tant que théologienne, je ne peux même pas donner une homélie au sein de mon Église. C'est un non-sens. J'ai autant de connaissances qu'un théologien. Je suis autant à même que lui d'interpréter une Bible et les Saintes Écritures. Parce que je suis une femme, je ne peux pas. Les droits de la femme sont bafoués dans toute l'Église catholique, autant dans l'Église catholique que dans l'Église orthodoxe. Seule nuance, comme je l'ai dit plus haut, l'Église catholique offre des compensations. Les femmes peuvent lire et distribuer la communion. Elles se disent alors qu'elles ont un rôle et les évêques ont la paix pendant un moment. Mais vous souffrez de votre situation dans l'Église, Mère Sophia. Cela ne vous a jamais poussé à envisager de changer d'Église ? D'entrer dans l'Église anglicane, par exemple, qui permet maintenant aux femmes d'exercer le sacerdoce ? Tout d'abord, je tiens à saluer cette Église qui a eu le courage de dire « l'exclusion, ça suffit ». Pourtant, l'Église anglicane est tout aussi vieille que l'Église romaine. En fait, elle est une dissidence de Rome. Alors pourquoi n'ai-je pas quitté mon Église ? J'aime la richesse de l'orthodoxie. La manière de prier et de louer Dieu sont justes, à mon avis. Il n'y a pas de déviance. Toute la liturgie est basée sur des passages bibliques. Il n'y a pas de déformation. Cet aspect me manquerait dans les autres confessions. Mais en tant que ministre d'Église, j'aurais la tentation d'aller chez les Anglicans. Je le ferai peut-être. Je m'interroge à ce sujet actuellement. Si le concile panorthodoxe qui se déroulera de 1994 à 1996 ne rétablit pas à nouveau l'ordination de la femme diacre dans l'Église, car j'ai plutôt une vocation de diacre, alors je quitterai l'Église. J'irai voir mon évêque, son éminence métropolite Damaskinos, que j'aime beaucoup, et je lui expliquerai mes raisons. Mais j'ai confiance dans la sagesse de mon Église. Il faut servir l'Église globalement et pas à moitié. Moi, je suis diacre dans la rue, mais mon ministère s'arrête aux portes de l'Église. Il faut être solide psychiquement et spirituellement pour tenir dans une église comme la mienne. Mère Sophia, l'Église catholique n'a rien à envier à sa sœur orthodoxe en matière d'exclusion des femmes. Comment en jugez-vous l'attitude de Jean-Paul II vis-à-vis de ces dernières ? Jean-Paul II, par sa pensée polonaise, par sa situation socioculturelle et psychologique, fait totalement reculer l'Église. L'image qu'il a de la femme est extrêmement pauvre. À mon avis, il n'a pas compris le rôle des femmes. Ce qu'il dit sur elle est un scandale. Je souhaiterais qu'il porte un regard plus historique sur le rôle de la Mère de Dieu, par exemple. Il ne voit pas en elle le tabernacle. Il fait une confusion du rôle historique de Marie, Mère de Dieu. Le pape a une vision bétifiante de Marie. Quel est, selon vous, le vrai rôle de Marie ? Marie a un rôle indispensable à l'Église chrétienne. Cette dernière ne serait pas là si la Mère du Christ n'avait pas existé. On ne peut cantonner Marie à un second rôle inintelligent. Pour comprendre son importance, il faut lire le Magnificat. Marie était une grande prophétesse. Elle représente l'union entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Quand une femme tient une telle place, on n'a pas le droit de la bétifier comme le fait Jean-Paul II. Ce pape l'idolâtre trop. Il tient à en faire un discours sexiste. L'Église de Rome donne un rôle de maman à la femme et occulte celui de prophétesse. Marie était une théologienne. De plus, le pape méconnaît son libre arbitre. Elle aurait pu dire non à l'ange Gabriel qui lui demandait d'être la mère du Christ. Ça devrait nous faire réfléchir sur le rôle déterminant de Marie. Les protestants l'ont piétinée, les catholiques l'ont bétifiée. Seule l'orthodoxie a reconnu à Marie son vrai rôle. Mais au-delà d'elle, il n'y a pas d'autre femme. L'entrée des femmes dans l'Église dépend beaucoup de la bonne volonté des hommes qui tiennent les rênes de l'institution. Quels moyens concrets les femmes ont-elles à disposition pour imposer leur point de vue, à votre avis, Mère Sophia ? Les femmes peuvent tenter de s'imposer, à mon avis, de deux façons. La première, c'est de désinvestir l'Église et de partir. C'est un acte qui peut être très pédagogique. Quitter, c'est créer le vide, le manque. Tant qu'elles sont là, les hommes ne comprendront pas ce que les femmes apportent. La seconde manière, c'est de dire « maintenant, ça suffit » et de prendre la place de facto. Personnellement, je suis pour la manière pédagogique. Ça fait des années que les femmes cherchent à se faire entendre et qu'elles se battent. Alors qu'elles fassent comme les Anglicanes il y a quelques années. Toute une communauté de femmes avait déserté l'église. Quand j'étudiais à Oxford, on voyait des églises entières dans lesquelles il n'y avait pratiquement plus que des hommes. C'est une manière de dire à ceux-ci « jusqu'à quand allez-vous ignorer notre place ?» Il faut aussi aller au congrès, dans les places clés de l'église, se faire entendre à tous les échelons de celle-ci. Si les femmes devaient accéder à un rôle digne de ce nom au sein de l'église, comment l'envisageriez-vous, Mère Sophia ? Je souhaiterais avant tout qu'elles ne reproduisent plus les stéréotypes masculins, qu'elles construisent une église ouverte, qu'elles effacent toutes les hiérarchies et les distinctions entre le clergé et la laïcité. Elles devraient aussi veiller à faire disparaître les fastes, qui sont de l'argent gaspillé, et aller dans le monde pour appliquer l'évangile du Christ. C'était une interview de Mère Sophia, qui vit à Lausanne, faite par Patrice Rabriel pour le journal Femmes Suisses. Thank you. C'est le Balanescu Quartet que vous venez d'entendre, le Balanescu Quartet qui aussi nous accompagnera tout au long de ces lectures concernant la religion par les femmes. Le Balanescu Quartet composé, qui est formé de Alexander Balanescu qui joue du violon, de Claire Connors du violon, de Bill Oakes du violoncelle et Caroline Dale violoncelle. Et maintenant, tout de suite, une toute autre musique avant de découvrir le portrait de Dorothy Day, la mère universelle catholique. C'est Mercedes Sosa, la parole à mes gens.
Para encontrarla, si ella me escucha, mi canto hace falta.